Une baisse de taux de la Réserve fédérale des États-Unis est-elle jouable le 30 juillet? S&P 500, objectif atteint. Yes, chers amis, rappelez-vous, c'était mon scénario. Revenir au record historique. Maintenant, c'est fait. Target reached. Oui, mais moi, je me mouille, vous me connaissez. Que peut-on attendre pour la suite? Chers amis, je vous ai préparé un dossier spécial Fed. Je vais me mouiller. Je vous donne dans cette vidéo mon scénario pour la Fed. Est-il possible d'avoir une baisse de taux le 30 juillet? Ça se joue à pas grand-chose. Le consensus est plutôt sur septembre. Mais d'ailleurs, il faut comprendre comment ça marche, une décision de politique monétaire de la Fed. Voici le plan tout de suite de cette vidéo. J'espère qu'elle vous intéressera. Alors, première partie. Que décide vraiment Powell? Non mais c'est vrai, on parle de Jérôme Powell. Quel est son pouvoir exact? Quel est son véritable pouvoir? A-t-il un veto, par exemple, au sein du FOMC? Non, parce qu'au sein du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed, il y a des membres qui sont pro-Trump, qui ont été nommés par Trump, qui veulent une baisse de taux en juillet. Deuxième partie, FOMC, ce comité qui décide de la politique monétaire de la Fed. Quel est le rapport de force actuel? C'est bien de parler de blablater, mais quelle est la probabilité technique réelle? Technique, je ne parle pas de graphique. Quelle est la probabilité technique réelle d'une baisse de taux en juillet? Le 30 juillet, ça se joue entre le 30 juillet ou le 17 septembre. Quel est le rapport de force? Qui peut voter? Qui peut basculer? Qui vote d'ailleurs? Qui a le pouvoir? Vous allez voir que Jérôme... Il n'a pas le pouvoir en fait. Il n'est qu'un membre parmi les autres. Il n'a qu'une voix. Comment ça fonctionne? Dans cette vidéo, je commence par vous expliquer ça. Ça va être un peu éducatif entre guillemets. Comment ça fonctionne concrètement au sein de la Fed? Troisième partie, vous avez vu les chiffres de l'inflation vendredi. Vous les avez vus. Est-ce que Jérôme Powell a raison de s'inquiéter? N'en fait-il pas trop? Tout à l'heure, quel avait été l'impact de la première guerre commerciale? Toutes les estimations disent que là, les tarifs douaniers, imaginons que ce soit 10% pour tout le monde, ça fera plus 0,2, plus 0,3. Ça nous maintient un peu au-dessus de la cible de la Fed. A-t-il raison? Et toutes les autres composantes? Et le pétrole qui est retombé au sud? Rappelez-vous les collapsologues dans mon Fast and Forex, le pétrole à 130 $, 130 $, ils ont encore eu tort, comme d'hab. Bon, et on les aime bien les collapsologues, grâce à eux, on fait ce qu'ils pensent, on fait l'inverse de ce qu'ils pensent, on a raison. Alors, quatrième partie, 30 juillet ou 17 septembre. D'abord, je vous aurais expliqué comment techniquement le FOMC marche. Maintenant, quels sont les baromètres de marché? Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir? 30 juillet ou 17 septembre? Et si on n'a pas de 30 juillet, est-ce qu'on a un jumbo Fed cut en septembre? Bon. Cinquième partie, bah le S&P 500, il a son record historique. Nasdaq, record historique. Objectif atteint, rappelez-vous, c'était massive pour cette année. Bah elle est faite. Elle est faite au milieu d'année. Bah attends, qu'est-ce qu'on fait? On prend ses bénéfices, on sort, ou une petite conso court terme, ça passe ou ça... Bon, faut que je m'exprime sur le sujet. Et puis... Le marché n'ira pas plus haut sans un pivot de la Fed. N'ira pas durablement plus haut. Ne parviendra pas à passer sans la Fed. D'accord? Donc c'est important. Sixième partie, cette semaine, attention. Jour, fête nationale aux États-Unis, vendredi 4 juillet. Donc, le rapport NFP est avancé au jeudi 3 juillet. Et, chers amis, la seule explication possible d'une baisse de taux de la Fed, sauf fait exceptionnel pour le 30 juillet prochain, c'est... une hausse du taux de chômage ce jeudi 3 juillet, donc c'est le temps fort fondamental de la semaine. Dossier spécial Fed S&P 500 emploi inflation, aspect technique du fonctionnement de la Fed, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Bon, chers amis, est-ce que vous êtes prêts? Je vous ai vraiment préparé là un dossier spécial sur la Fed. Franchement, s'il vous plaît, restez jusqu'au bout. Vous allez comprendre comment ça marche. Non, parce que le débat est simple. 30 juillet versus 17 septembre. Et c'est important pour la tendance estivale. À un moment où, vous l'avez compris, le S&P 500 est à son record historique, le Nasdaq, pareil, ça passe ou ça passe pas. On peut temporiser à court terme déjà, juste pour un aspect technique. Mais le marché ne peut pas aller plus haut. Il est tellement cher. En termes de valorisation, je reprendrai tout ça avec vous dans une prochaine vidéo. Sans pivot de la Fed, il n'ira pas plus haut. Il faut justifier. Il faut soit des perspectives de profit en hausse, et pour ça, il faut des accords commerciaux, soit la Fed qui pivote. On n'ira pas plus haut sinon, sauf bulle spéculative. Mais concrètement, au-delà de la Fed, l'inflation, Powell, pas Powell, qui décide le 30 juillet ou le 17 septembre de baisser les taux? C'est un vote. Et vous savez que Popo, là, l'ami Popo, l'ami Popo qui est juste au-dessus de ma tête, là, il décide pas seul. Et c'est même pas lui qui a le pouvoir dominant. Il peut être pris à revers par la majorité. C'est vrai que Jérôme Donald Trump est en train de progressivement modifier les membres du FOMC, ce comité de politique monétaire. Ils ont chacun une voix. Ils sont 12, ils ont une voix. Powell, il a une voix. Et il n'a même pas de droit de veto. Donc si tout ce beau monde en face, même si lui il est prudent, même si lui ne veut pas baisser les taux, si la majorité veut baisser les taux, en juillet, ça baisse. Il n'a pas de pouvoir bloquant. Bon, mais pour l'instant, la majorité ne veut pas, justement. Alors, qui vote pas? Quel est le rapport de force actuel? Bon, mais c'est ce qu'on va voir. Ça va être la première partie de cette nouvelle édition du Top Gun, où, comme d'habitude, vous retrouvez tout a été chapitré dans la barre de temps. Donc, voilà, mes amis. Je me permets de vous appeler mes amis. Alors, Jérôme Powell, vous voyez, là, il fait ce petit geste-là. Vous voyez, ici, là, je fais le même geste que lui. Voilà, ça. Se joue à pas grand-chose. Ça joue à pas grand-chose parce que, alors, tout de suite, hein, la seconde vague d'inflation, s'il vous plaît, oubliez. Oubliez. Hein. D'ailleurs, le pétrole est revenu au sud. Ok, bon. Ça, d'ailleurs, encore une fois, hein, vous avez pu observer que, comme d'habitude, lorsqu'explosent les articles, le pétrole va à 200 dollars, il s'effondre. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais ça, c'est un autre sujet. Bon. Mais quand bien même, des économistes très intelligents ont essayé de chiffrer l'impact potentiel. Imaginons que tout le monde se mange 10% de droits de douane et la Chine est à 50. Tout le monde se mange 10, hors accords commerciaux. D'ailleurs, la date limite, c'est le 9 juillet, mais c'est possible qu'elle soit prolongée. Mais imaginons, ces économistes très intelligents nous disent que ça rajoute 0,3-0,4 au PCE, l'indice d'inflation favori de la Fed. Vous l'avez vu vendredi. Vous ajoutez 0,3-0,4, on est au-dessus de la cible. Donc c'est compliqué. Mais en même temps, ces 0,3-0,4, c'est provisoire. Derrière, une fois les droits de douane passés et une fois si les entreprises décident de répercuter sur le consommateur, ça se retasse. Donc tout ça joue en fait, tout ça. Et puis il y a le marché du travail. Ça se tend un peu, vous avez vu, cette semaine, vous avez toutes les statistiques de l'emploi qui sont publiées. Ça se tend du côté des inscriptions hebdomadaires au chômage. Bon. Alors, le programme est donc sous vos yeux, je vous ai donné le plan tout à l'heure, à l'oral. Donc toutes ces parties, vous voyez qu'il y aura aussi une grosse partie S&P 500, on va commencer par une grosse partie technique sur le fonctionnement du FOMC, etc., etc. Je vous donne des baromètres de marché. Enfin voilà, j'espère que là, je vous ai préparé quelque chose de complet. Donc voilà, moi j'espère que tout ça vous plaît. Alors, baisse de taux, quelles sont les anticipations actuelles et quelle est l'influence réelle? Quelle est l'influence? Réel de Jérôme Powell. Bien lisons, les amis. Alors, le FOMC se compose de 12 personnes. 12 qui votent. 10 plus 2. Voilà, là, ça fait 12. Ces 12 membres, d'où ils viennent? Vous avez 7 gouverneurs permanents au sein du comité de politique monétaire de la Fed. 7 sur 12. Eux, c'est du permanent. Vous avez le président de la Réserve fédérale de New York, qui lui est en permanence un membre votant. 7 plus le patron de la Fed de New York, parce que c'est la plus importante des banques centrales régionales, ça fait 8. 7 et 1, ça fait 8. Et vous ajoutez 7 plus 1 plus 4, patron de banque centrale régionale, vous avez déjà expliqué que les États-Unis sont découpés en banque centrale régionale. Il y en a 11, et avec une rotation, chaise musicale, 4 à chaque fois sur 11 votes. Donc, 7 permanents, plus le patron de la Fed de New York, plus 4 en rotation, ça fait 12. Vous avez ici à droite les membres votants actuels. À la question de savoir, c'est juste une première question technique. À la question de savoir, peut-on avoir une baisse de taux? Alors d'ailleurs, commençons par le commencement. Le consensus actuellement n'est pas du tout favorable à une baisse de taux en septembre, en juillet. Quand j'enregistre cette vidéo, vous avez une probabilité de 24% que la Fed baisse ses taux le 30 juillet et une probabilité de 69% qu'elle les baisse le 17 septembre. C'est-à-dire plus de 3 chances sur 4 qu'elle ne les baisse pas le 30 juillet. C'est vrai que franchement, pour qu'elle les baisse le 30 juillet, il faut vraiment des signaux négatifs du côté du marché du travail. Je ne vois pas d'autre explication. Si la Fed doit baisser ses taux le 30 juillet, c'est une inquiétude significative quant au marché du travail. Mais ces 24%, là, il y a quelques jours, c'était quasiment zéro. Donc ça change, ça évolue. Et cette semaine, c'est l'emploi. Mais effectivement, et si j'agrège les anticipations du marché avec ce que pensent les fameux 12 membres votants du FOMC qui sont régulièrement sondés, qui expriment publiquement leur point de vue, c'est enregistré, c'est officiel. Si vous additionnez les anticipations du marché avec ce beau monde, donc actuellement les 12 membres votants du FOMC, c'est M. Powell, M. Williams de la Fed de New York, qui est permanent, M. Barr, Mme Bowman, Mme Cook, M. Jefferson, Mme Kugler, M. Waller, Mme Collins, M. Goldsby, M. Musalem et M. Schmidt. Donc au passage, vous avez ici les informations de savoir est-ce qu'ils sont proches de Trump ou pas. En gros, les trois proches de Trump, c'est Michelle Bowman, qui est vice-présidente de la Fed pour la supervision. Elle a été nommée par Trump, logiquement. Et elle veut une baisse de taux dès juillet. Vous avez Christopher Waller, nommé par Trump, qui veut une baisse de taux dès juillet. Vous avez Austin Goldsby, qui n'a pas été nommé par Trump, mais qui veut une baisse de taux en juillet. Donc actuellement, Powell, lui, il freine. C'est d'ailleurs parmi les modérés, hein, puisque soit c'est hawkish, soit c'est modéré, c'est-à-dire statu quo, soit c'est dovish, c'est baisse de taux. Tout est expliqué là. Dovish, modéré, hawkish. Powell, lui, tout le monde a compris, malgré la pression de Trump, il bascule plutôt du côté des modérés statu quo. Et c'est le plus prudent parmi eux, d'accord ? Donc, au stade actuel, sur les 12 membres votants du FOMC, vous en avez 3 qui veulent une baisse de taux en juillet. Sur ces 3, 2 ont été nommés par Trump, c'est donc logique, et 1 n'a pas été nommé par Trump, mais pense qu'il faut baisser les taux. Ça va se jouer, il faut une majorité pour une baisse de taux. Ça va se jouer donc sur 4 personnes, parmi les modérés, ici, qui pour certains, dans leur communication publique, ne sont pas loin de basculer pour une baisse de taux. En particulier s'il y a des mauvais chiffres du chômage. Et donc cette semaine, vous avez la mise à jour de tous les chiffres du chômage, et notamment le rapport NFP, mis à jour ce jeudi 3 juillet, parce qu'attention, vendredi 4 juillet, c'est la fête nationale aux États-Unis, donc il n'y a pas de statistiques, et tout est avancé au jeudi 3 juillet. Et alors récemment, vous avez beaucoup de communication, notamment de Michelle Bowman, Madame Bowman, vice-présidente de la Fed pour la supervision bancaire, complètement, c'est un soutien affiché de Donald Trump, et elle communique à fond pour une baisse de taux le 30 juillet. Et ensuite, vous avez un jeu d'influence. C'est-à-dire que Powell n'a pas de veto, sa voix ne compte pas double. Mais chacun s'influence. Et Jérôme Powell, en tant que président, a un certain nombre de prérogatives qui peut créer un effet d'influence. Donc, il faut bien comprendre que tout ce beau monde essaye aussi de s'influencer les uns les autres. Donc voilà, concrètement, ça marche comme ça. C'est pas juste Jérôme qui décide. Heureusement que c'est une décision collégiale, sinon ce serait compliqué de confier toutes ces décisions à une seule personne. Donc, est-ce qu'une baisse de taux est possible en juillet? Ça va se jouer en fonction là de quelques modérés. Alors, est-ce que l'ami Jérôme en fait trop? Jérôme, en fais-tu trop? Il est vrai que Jérôme craint. D'ailleurs, lorsque vous regardez la mise à jour des dernières anticipations d'inflation de la Fed, effectivement, il y a des craintes d'un rebond assez significatif de l'inflation PCE. Elle serait à 3% version nominale d'ici la fin d'année, 3,1 version core, c'est-à-dire que la Fed est en train d'intégrer plus 0,4, plus 0,5 par rapport au PCE actuel. La Fed est en train d'intégrer plus 0,3, plus 0,4 en lien avec ce que serait l'impact des tarifs douaniers. Dans la mesure où tout le monde se mangerait 10% et 50 ou 60 pour la Chine. Sachant que nous ne connaissons actuellement pas ces chiffres, puisque la diplomatie commerciale est en cours. La date limite est au 9 juillet, mais elle sera peut-être encore reportée, cette date limite. Elle sera peut-être encore reportée. Mais Jérôme en fait-il trop? Alors, pour répondre à cette question, il faut être factuel. L'indice d'inflation favori de la Fed, c'est le PCE. Y a-t-il dans le PCE de quoi s'inquiéter? Raisonnons juste, regardons les choses d'un point de vue mathématique, mathématique entre guillemets. Mais oui, comment ça marche? Vous avez ici un tableau qui vous donne le poids respectif des différentes catégories pour le CPI et pour le PCE. Le PCE étant un indice favori de la Fed. Alors, première information, quasiment 67% du calcul du PCE, quasiment 67% du calcul du PCE, ce sont des services. Or, les services ne sont pas concernés directement par les tarifs douaniers. C'est essentiellement les biens industriels, les matières premières. Les services peuvent l'être indirectement, notamment par exemple l'industrie automobile. C'est vrai que s'il y a une forte hausse du prix des automobiles, on sait que ça peut avoir un impact à moyen terme sur les assurances, mais pas directement. Et pour l'instant, le prix des automobiles reste complètement sous contrôle. Et bien sûr que oui, les négociations finales, notamment avec le Canada, le Mexique et l'Union européenne, vont jouer un rôle majeur, sans oublier la Chine. Mais déjà, première chose. Alors, ce que disent les économistes, je vous l'expliquais tout à l'heure, il faut, en partant du principe que tout le monde se mange un 10% et que la Chine se mange 4 fois plus, 5 fois plus, vous ajoutez 0,3 au PCE core. Donc si vous ajoutez 0,3 au PCE core, prenez sa valeur mise à jour vendredi dernier, effectivement, on s'installe assez au-dessus de la cible de la Fed. On n'est pas en seconde vague d'inflation et on se maintient au niveau auquel on est en fait depuis déjà quelques mois, à un niveau un poil trop élevé pour vraiment pivoter. Sauf, alors quand je dis pivoter, c'est reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux qui est en pause depuis janvier. Ça, c'est une première chose. Maintenant, mais regardons les autres composantes. Celles qui, déjà, une première composante importante, le pétrole. J'ai pu vous expliquer dans le Fast and Forex de la semaine dernière que le poids direct et indirect du pétrole, c'était 10 à 11% dans le calcul du PCE. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé avec le pétrole? Ça, je suis vraiment content, parce que c'est une résistance. J'avais enregistré avant l'annonce du cessez-le-feu. Et je vous ai montré ça, avant l'annonce du cessez-le-feu, qu'il y avait cette énorme résistance sur le pétrole. C'est, bien sûr, c'est pas la résistance qui a fait baisser le prix. C'est parce qu'il y a eu un apaisement au Moyen-Orient. Mais, peu importe, il s'avère que cette résistance technique nous disait qu'il n'y avait pas d'alerte sur le prix du pétrole. Et donc, retour à la case départ. Le prix du pétrole fin juin est à 65$. Fin juin 2024, il était à 80. Vous avez encore un delta négatif. Donc, est-ce qu'on s'inquiète pour le pétrole? Non. Maintenant, regardez bien le poids des composantes. L'immobilier. 42% du CPI, 23% du PCE, la santé, 17%, quasiment 18% du PCE. Donc vous prenez l'immobilier, vous prenez la santé, vous arrivez à plus de 40% du PCE. Immobilier santé, 40% du PCE. L'immobilier se contrefiche de la guerre commerciale, il a ses propres dynamiques. La santé, un peu moins, mais quasiment, se contrefout de la guerre commerciale. Or, actuellement, ce que montrent les indicateurs avancés est en réel. Pour la santé, RAS, on est posé tout en bas à 2%, ça bouge plus. Pour l'immobilier, ça continue de baisser, avec un taux d'inflation des nouveaux loyers qui est négatif et un taux d'inflation temps réel qui est à 3,18. Et là, vous avez l'inflation officielle qui tend vers l'inflation temps réel. Donc, vous avez des forces désinflationnistes puissantes. Mais quand même, il faut l'admettre. Ce que seront les tarifs douaniers dans leur version finale, auront un impact sur le PCE. Mais ne sont pas en mesure de créer une seconde vague d'inflation. Mais ils peuvent maintenir le PCE 0,5, 0,6, peut-être 0,7% au-dessus de la cible de la Fed, sachant que cela serait provisoire. Reste à savoir si la Fed intègre le côté provisoire et va donc rebaisser ses taux en sachant que de toute façon on ira à sa cible, ou reste à savoir si la Fed va dire « Ok, c'est provisoire, mais on veut voir la reprise de la baisse du taux d'inflation. » Et là, on fait rien, on attend. Quand je dis la Fed, ce sont les 12 personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc tout va... Et c'est pourquoi, vous savez, il y a ce qu'on appelle des Fed Watchers. Les Fed Watchers décortiquent tous les jours les prises de parole de ces 12 membres. Et en fonction de l'évolution des mots qu'ils choisissent, vous avez des algorithmes qui arrivent à anticiper ce que fera la Fed en fonction de l'évolution de la communication de ces 12 membres votants. Vous voyez en fait à quoi ça se joue. C'est ça qui est fou. Et là, on est vraiment dans le côté purement humain. Interprétation de la communication de ces 12 membres votants. Donc au stade actuel, effectivement, vous n'avez que 3 sur 12 qui est en faveur d'une baisse de taux le 30 juillet. Voilà, ça, c'est effectivement... Donc, c'est en tout cas la situation à fin juin. Alors, 30 juillet ou 17 septembre ? Je vais faire mon youtubeur là, et dites-moi dans les... Moi-même, je déteste entendre ça dans les vidéos que je regarde sur différents sujets. Et dites-moi dans les commentaires, vous êtes plutôt 30 juillet ou 17 septembre ? Bon. Moi, je vais vous montrer un baromètre pour ça. Le meilleur baromètre de marché pour anticiper ce que fera la Fed, c'est le taux obligataire à 2 ans. Il est acquis, il est admis par la haute finance que le taux obligataire à 2 ans est le meilleur baromètre de marché pour anticiper ce que fera la Fed. Et petit à petit se met en place un renversement. Mais il n'y a pas de signal baissier tant que ce niveau des 3,55 fait support. Vous voyez très bien que c'est la ligne de coup d'une potentielle structure en formation arrondie de sommet ou rounding top. Et quand je passe en données journalières, eh bien, vous pouvez observer la moyenne mobile à 200 jours et le rendement obligataire à 2 ans qui s'est maintenu sous la moyenne mobile à 200 jours. Mais un vrai signal bearish serait de casser ce niveau. 3,55. Donc, là, ce que nous dit le rendement obligataire à 2 ans américain, c'est qu'effectivement, petit à petit, augmente la probabilité, ça rend quasiment la certain, en fait, tant qu'on est sous la moyenne mobile à 200 jours, c'est quasiment certain qu'on ait une baisse de taux en septembre. Mais comment savoir, à partir du rendement obligataire à 2 ans, si on peut avoir une baisse de taux en juillet ? Pour ça, il faudrait revenir sur ce support. Et alors si ça casse, c'est certain qu'on l'a en juillet. Vous comprenez ce que je veux dire ? En tout cas, pour le moment, le taux obligataire à 2 ans nous la garantit quasiment pour septembre. Alors, maintenant pour le S&P 500, effectivement, et l'enjeu de la liquidité, ça c'est quelque chose dont j'ai pu vous parler lors de la conférence à Lausanne. Vous avez bien compris que, alors déjà je suis vraiment, il y a la corrélation positive entre la liquidité mondiale, entre la liquidité mondiale et le S&P 500, ça a été démontré. Ça, je vous l'ai montré dans la conférence de Lausanne, que la liquidité structurelle, qui est donc l'addition du M2 plus la capacité de crédit de l'économie, faisait un nouveau record historique. Bah, depuis qu'on s'est vu à Lausanne, elle a fait encore un nouveau record. Et donc, conséquence, objectif atteint. Alors attention, je n'enregistre pas la vidéo lundi matin, d'accord ? J'enregistre en fin de semaine. C'était ma cible. C'est pile poil quand j'enregistre la vidéo, la cible est faite. Et je me suis énormément appuyé sur l'analyse chartiste, et notamment l'analyse chartiste en données hebdomadaires où je faisais la comparaison avec la reprise post-Covid. Et on a fait c'est complètement surprenant comme on avait la même chose. Notez qu'ici à l'époque du Covid, ensuite on a hésité. Là maintenant je m'exprime plus, là le marché peut marquer une pause. Je pense toujours que le haut de la vague 5 cette année sera plus haut et qu'on ira chercher 6500 points. Mais ça peut prendre du temps. Et le marché n'ira pas forcément cet été, d'accord ? Ça peut d'abord retracer, attendre les supports, attendre les moyennes mobiles, la 200, la 50, attendre les supports dynamiques du système Ishimoku qui sont plus bas. Ça peut prendre son temps. Ça peut prendre son temps. Mais peu importe, objectif atteint, en lien avec l'analyse technique hebdomadaire, en lien avec ce que nous disait l'analyse quantitative, en lien avec ce que nous disait Le sentiment du marché qui est resté archi-bériche malgré le rebond, le sentiment des particuliers, et ça, il faut en avoir une lecture contrarienne. Cette approche prix, momentum, sentiment, liquidité a démontré son efficacité. Pas pour me jeter des fleurs, on s'en fout complètement. C'est juste une approche méthodologique pour comprendre pourquoi on pouvait envisager de revenir au contact du record historique. Maintenant, le marché va peut-être temporiser, il peut avoir besoin de le faire, c'est pas grave. Il y a une seule règle en tendance haussière, une seule règle à se mettre dans la tête. En tendance haussière, j'achète sur support. Je n'achète pas sous résistance. Et en tendance baissière, je vends sous résistance. Point. Donc en tendance haussière, comme là nous sommes en tendance haussière, si je veux rentrer, j'achète sur support. Et donc les premiers supports en données journalières pour le S&P 500. En weekly, première grosse zone support, c'est la zone des 5008-5009, hein, la vraie première tangible. Donc là, le marché peut avoir besoin de respirer un peu, hein, ce qui serait pas illogique, d'ailleurs. En tout cas, tout l'enjeu, donc, pour le choix que fera la Fed, c'est bien sûr la liquidité structurelle, directement impactée par les choix monétaires de la Fed, et aussi l'évolution de son bilan. C'est-à-dire que le 30 juillet prochain, si la Fed baisse pas ses taux, elle peut continuer d'ajuster son quantitative tightening, voire peut-être le réduire à zéro. Ça reste à voir. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait le 18 juin dernier. Le temps fort fondamental de la semaine. L'emploi. Attention cette semaine. Fête nationale aux États-Unis le vendredi 4 juillet. Donc tous les chiffres du vendredi 4 juillet sont avancés au jeudi 3 juillet. La seule raison qui ferait basculer une majorité des 12 membres votants en faveur d'une baisse de taux en juillet, c'est l'emploi. C'est un tic à la hausse inquiétant du taux de chômage. Et effectivement, lorsqu'on regarde certains indicateurs avancés comme les inscriptions hebdomadaires initiales au chômage ou comme vous avez sous les yeux, les inscriptions hebdomadaires continues, ça commence à sentir un peu le roshi. Certaines entreprises ont probablement été mises à mal par la guerre commerciale. Si cela devait se voir cette semaine au sein du taux de chômage, vous observeriez alors une augmentation significative de la probabilité d'une baisse de taux de la Fed le 30 juillet prochain. Donc, la clé, c'est l'emploi. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette nouvelle édition du Top Gun. J'espère qu'elle vous a apporté des éléments intéressants. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Passez un bon début de semaine.